Je vais vous lire Le pinceau de Ma Liang de Béatrice Tanaka qui est paru dans J'aime lire. Ma Liang. Il était une fois, il y a très longtemps, au fond de la Chine, un petit orphelin nommé Ma Liang. Comme personne dans son village n'avait de quoi nourrir un enfant de plus, il vivait tout seul, dans une caverne près de la forêt. Il gagnait sa vie à ramasser du bois mort qu'il vendait au manoir de Maître Chou, le gros propriétaire de toutes les terres, et à la villa où le professeur Pou passait ses vacances. C'est là que commence notre histoire. Un après-midi, gris, en livrant ses fagots, Ma Liang voit le professeur Pou promener un bâtonnet à queue de soie sur une feuille blanche où surgissent des montagnes, des nuages, des fées. Le professeur Pou dessine. Ma Liang en est émerveillé. Jamais il n'avait vu un peintre ou une peinture. Il reste là en regardant le professeur Pou qui finit par se fâcher. « Je n'aime pas que tu fixes mon pinceau avec ce regard de poisson. »« Pinceau ?» répète Ma Liang rêveur. C'est la première fois qu'il entend ces mots. Puis il prend courage et dit « S'il vous plaît, monsieur, si je vous apporte beaucoup, beaucoup de bois, vous me prêterez-vous un peu votre pinceau ?» Le professeur Pou ouvre ses yeux comme des bols à thé, puis sa bouche se fend comme un croissant de lune. Il éclate de rire. Il rit tant que ses habits en tremblent. « Ha 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 ! Elle est bien bonne. Un va-nu-pied haut comme trois pommes se servir d'un pinceau. Ha 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 ! Ce sera la meilleure histoire à raconter à l'empereur cet hiver. » Ma Liang pâlit. Il laisse tomber ses fagots et s'enfuit sans même prendre les trois sous que lui tend le serviteur du professeur. Il court jusqu'à la forêt, se blottit dans un fourré et éclate en sanglots. Lorsque, des heures plus tard, Ma Liang s'essuie enfin les yeux, il remarque que ses larmes ont laissé des traces foncées sur la poussière blanche. Doucement, il y passe son doigt. Lorsque le doigt file droit, cela fait un trait droit, et le trait se courbe lorsque le doigt tourne. Ma Liang sourit consolé. Il a découvert qu'on peut peindre sans pinceau. Depuis ce jour-là, Ma Liang peint partout. En ramassant du bois, il trace des oiseaux sur la terre à l'aide d'une brindille. En puisant de l'eau, il trempe son doigt dans la rivière et peint des poissons sur les rochers. En faisant du feu, il garde des morceaux de charbon et couvre les murs de sa caverne d'innombrables dessins. L'été passe. Le professeur Pou retourne à la ville avec son serviteur, ses valises et son pinceau. L'hiver arrive. Ma Liang dessine sur les champs enneigés. Et toutes les nuits, il rêve d'un pinceau. Un rêve qui devient vrai. Une nuit, tandis que Ma Liang rêve du pinceau du professeur Pou, il entend un vieil homme lui murmurer d'une voix très douce. « Puisque tu désires tant, le voici ton pinceau. » Ma Liang sursaute. Jamais personne n'est venu jusqu'à sa caverne. Comment ce vieillard souriant a-t-il pu y monter ?« Prends-le et veille à bien t'en servir, » ajoute le vieillard en glissant un gros pinceau dans la main de Ma Liang. Puis le vieil homme disparaît aussi mystérieusement qu'il était venu. Ma Liang veut lui courir après, il faut remercier lorsqu'on reçoit un cadeau. Il se lève, trébuche et tombe de son lit de paille. Ce n'était qu'un rêve. Pourtant, le pinceau est dans sa main, avec son manche lisse et ses poils si doux. C'était peut-être un génie, se dit Ma Liang. Enfin, même si je ne connais pas, merci, mille fois merci, ma première peinture, ce sera un oiseau pour toi. Or, à peine Ma Liang a-t-il fini de dessiner la première plume que l'oiseau se redresse, secoue ses ailes et s'envole en chantant. « Ça alors ?» dit Ma Liang. « Voyons ce qui arrivera si je peins un poisson. » Or, à peine a-t-il fini la dernière écaille, que le poisson-pain s'anime, remue la queue et saute dans le torrent qui coule devant la rivière, la caverne. Ma Liang est ravi. Il court au village et frappe à la porte de son ami le bûcheron dont la vieille hache s'était brisée la veille. « Ouvre vite ! J'ai une nouvelle hache pour toi. »«
Farceur, va, tu pourrais au moins nous laisser dormir puisque nous n'avons pas dîné, » grogne le bûcheron.
« Vite !» Ma Liang peint une hache sur le sol de terre de la cabane. Et voilà une vraie hache, manche de bois, lame d'acier. Tandis que le bûcheron la soupèse heureux, n'osant y croire. Ma Liang peint des bols de riz, des plats de viande, une théière avec du thé fumant. Et toute la famille peut manger. Après le repas, il peint un sac de riz qui durera tout l'hiver. Et une nouvelle casserole pour la grand-mère. Puis il court voir tous les autres paysans. Et dessine une charrue pour celui qui n'en a pas. Un bœuf pour celui qui doit en louer pour labourer. Il peint des lits pour ceux qui couchent sur le sol, de terre, des livres et une lampe pour l'étudiant pauvre qui a dû interrompre ses études. Bientôt, Maître Chou, à qui appartenaient tous les champs du village, ne reconnaît plus ses fermiers. Ils ont bonne mine, ils rient malgré le froid et aucun n'est venu lui demander de l'argent. « Ce n'est pas naturel, se dit-il. L'hiver est une saison triste, tout le monde le sait.
Les gens ont froid et faim. Ils vendent leur bétail en échange d'une bouchée de riz. C'est la saison où les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent. Je veux comprendre pourquoi cet hiver est différent. Il appelle ses valets et les envoie enquêter dans le village. Il finit par savoir les miracles du pinceau de Maliang. Un magicien dans le village, et je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Tout le monde en a profité, sauf moi. Alors filez, invitez-le à déjeuner, préparez de bons plats, dressez la plus belle table. Allez le chercher avec mon meilleur cheval. Oust ! Crie Maître Chou. Maliang est pris au piège. Maliang, qui autrefois portait des fagots aux cuisines, est tout étonné de se retrouver dans la cour d'honneur, accompagné de serviteurs et accueilli par le gros propriétaire lui-même. Je suis vraiment navré de faire votre connaissance si tard. Dire qu'un génie comme vous habitait notre village et que je n'en savais rien. Enfin, mieux vaut tard que jamais. Entrez, entrez donc, ma pauvre maison est à vous, dit Maître Chou, en aidant Maliang à descendre du cheval. Abasourdi par ce flot de paroles, Maliang suit son hôte à travers les cours et les jardins, les granges et les étables. Quelle richesse! Je vous ai fait préparer un petit repas, absolument minable d'ailleurs, mais que voulez-vous? Ma cuisinière est si maladroite. Ah, si j'avais un vrai cuisinier. Un cuisinier idéal créé par votre pinceau magique, par exemple, enfin. En attendant, accepteriez-vous un peu de vin? Non, merci, dit Maliang. Maître Chou ne l'écoute même pas et remplit de coupe. À notre amitié, trinque-t-il en vidant aussitôt sa coupe. Bien que ce soit un pauvre petit vin, ma foi. Mais je suppose que vous pourriez changer cela. Car vous me laisserez bien un petit souvenir de votre visite, n'est-ce pas? Par exemple, un dessin de 100 esclaves tenant chacun un tonneau du meilleur vin, tous en rang devant une grande maison au toit d'or et aux fenêtres de pierres précieuses. Maliang l'interrompt. Je regrette, mon pinceau ne sait pas peindre un tel tableau. Quoi? Ça peint pour tous les misérables va-nu-pieds du village, ça refuse de peindre pour moi, et mes serviteurs enfermés ce vaurien dans l'écurie vide. Que personne ne lui apporte à manger, que personne ne s'approche de l'écurie sous peine de 30 coups de fouet. Ah, si je savais me servir un pinceau, j'aurais tué ce petit peintre, et avec son pinceau magique, je me serais procuré tout ce dont j'ai envie. Bon, le froid et la faim lui feront vite comprendre qu'il a intérêt à m'obéir. De tout l'après-midi, Maître Chou ne cesse de crier. Et il ronchonne toute la soirée. Il ne se tait que tard la nuit car une tempête de neige se lève. Elle est si violente qu'on n'entend plus qu'elle et les ululements du vent. Le lendemain matin, la cour est toute blanche. « Quel froid !» se dit le gros chou en enfilant sa fourrure. « Cela a dû aider mon bonhomme à changer d'avis. » Et après avoir mis son bonnet, ses bottes fourrées, ses gros gants, il s'en va ouvrir la porte de l'écurie. Maliang n'y est plus. On n'y voit que des bols vides auprès d'un poêle bien chaud et une échelle appuyée sous une fenêtre. « Mais il n'y a jamais eu ni fenêtre, ni échelle, ni poêle dans cette écurie, s'étonne Maître Chou. » Dehors, sous la fenêtre, les empreintes des sabots d'un cheval forment un chemin jusqu'au portail et se perdent à l'horizon de chaud enneigé. « Au secours, au voleur, à cheval, aux armes, à moi !» crie Maître Chou. Et suivi par ses valets, il s'élance à la poursuite de Maliang. Maliang chez l'empereur. Maliang galope à travers champs. Lorsqu'il se voit pris en chasse, il dessine vite un arc et une flèche. Sans arrêter sa course, il tire dans la direction de Maître Chou. La flèche peinte se change en une flèche véritable, siffle dans l'air et atteint le gros propriétaire. « Bon débarras, on ne le verra plus, » dit ses serviteurs, que Maître Chou avait souvent maltraité. Et faisant demi-tour, il retourne aussitôt au village. Maliang, lui, ne peut y retourner. On le jetterait en prison pour avoir tué un homme. Tristement, il continue sa route. Il sait qu'il ne pourra plus aider personne avec son pinceau sans se faire reconnaître et emprisonner. Aussi, lorsqu'il arrive dans la grande ville, il décide de ne plus finir ses peintures tout à fait, pour qu'elles ne puissent plus devenir vivantes et s'animer. Personne ne remarque qu'il manque toujours une plume, un poil de moustache, un pétale ou l'ongle d'une patte aux peintures de Maliang. La plupart des gens qui achètent des peintures ne le regardent pas vraiment. Maliang peint dans la rue, au milieu d'un cercle d'enfants. Et un jour, il se met à peindre une grue blanche debout sur une patte, avec un œil fermé, puisqu'un oiseau qui dort ne peut s'envoler. Quelle drôle de position, ça doit être fatigant, dit une fillette. Pas du tout, les grues arrivent même à dormir sur un seul pied, répond Maliang. « Vraiment ?» demande un garçon. « Bien sûr, ce n'est pas difficile du tout. Regarde, il y a un autre. » Et pour le prouver, il tend ses bras, plie une jambe et ferme les yeux. Maliang le trouve si drôle qu'il éclate de rire. Le pinceau tremble dans sa main. Une goutte d'encre tombe juste au milieu de la tête de l'oiseau comme un œil rond et brillant. Et la grue, achevée bas de l'aile, se détache du papier et s'envole.
Personne n'en aurait rien su si un marchand d'eau n'était passé par là à ce moment précis. Car lorsqu'un enfant voit un oiseau peint qui s'envole, il n'en dit rien, de peur qu'on le traite de menteur. Mais le marchand d'eau raconte cette histoire incroyable partout où il passe. Bientôt, tout le monde ne parle que des peintures animées de Ma Liang. Et avant qu'il n'ait pu quitter la grande ville, les gardes de l'empereur l'emmènent au palais. L'empereur est bas sur pattes, très pâle et comme gonflé. Il porte une robe d'or brodée de pierres précieuses. Il ressemble tout à fait à un crapaud. « Peins-moi en dragon !» ordonne-t-il à Ma Liang. Mais le pinceau, qui ne sait peindre que la vérité, dessine un énorme crapaud qui se met à sautiller aussitôt à travers la salle du trône. « Idiot, tu t'y es encore une fois mal pris !» gronde la vieille impératrice sa mère. « Combien de fois te répéterai-je que même un empereur doit être poli ?» Puis elle se tourne vers Ma Liang et dit de sa voix la plus sucrée. « Je vous en prie, jeune homme, peignez donc un oiseau de paradis. » Mais sous la main droite de Ma Liang, le pinceau ne trace qu'une poule déplumée. « Arrêtez ce garçon insolent, battez-le, brisez-le !» piaille l'impératrice qui oublie soudain sa politesse. « Mais arrachez-lui d'abord son pinceau. »« Ne cassez pas le pinceau, je le veux pour moi !» crie l'empereur. Les gardes se jettent sur Ma Liang, le frappent et lui enlèvent le pinceau. Puis ils l'enchaînent et le traînent jusqu'à la plus noire oubliette du palais. Ma Liang au palais. Devenu maître du pinceau magique, l'empereur se fait apporter une belle soie blanche et de la peinture dorée et se met à peindre. D'abord, il peint un tas d'or, puis un deuxième, puis un troisième bien plus grand. Mais il ne suffit pas de savoir manier un pinceau pour être peintre, car lorsqu'il a fini, il ne voit devant lui que des tas de pierres. L'or en barre doit être plus facile à peindre, se dit l'empereur. Il commence donc à peindre une barre, mais il la trouve trop petite. Il en recommence une plus grande, et son morceau de soie est trop court pour la contenir. Alors il se fait apporter tout un rouleau de soie et il peint une très longue barre aussi longue que le rouleau. Mais peut-être parce que sa main tremble d'envie, ou parce que le pinceau ne veut obéir qu'à Ma Liang, il trace un trait ondulé, qui devient un énorme serpent d'or à la gueule largement ouverte. Si les gardes ne s'étaient pas élancés à son secours, l'empereur aurait fini dans le ventre du serpent qui s'était lui-même dessiné. Le pinceau ne vaut rien sans le petit peintre. Il vaut mieux le relâcher et le nommer peintre impérial. « Fais-lui plutôt épouser ta sœur, la princesse, » dit l'impératrice. « D'ailleurs, aucun de nos princes n'en a voulu. » L'empereur fait ramener Ma Liang dans la salle du trône. Il prononce un long discours sur la bonté des rois et finit ainsi. « Nous accordons la main de la princesse au peintre Ma Liang. » Ma Liang l'écoute parler. Il voit le pinceau serré dans la ceinture brodée des dragons, les barreaux d'or des fenêtres, les yeux durs de la princesse, toute raide dans sa robe argentée. Il voit les grands gardes qui l'entourent, le chef de police qui fait tinter les chaînes dont on l'a délivré il y a quelques minutes à peine. Ma Liang comprend qu'il ne peut s'échapper. Lentement, parce qu'il a mal aux chevilles et mal au cœur, Ma Liang s'agenouille. L'impératrice pense que c'est parce qu'il n'ose lever les yeux sur l'empereur. Elle est toute contente de le voir si respectueux. « Allons, n'aie pas peur de regarder ta nouvelle famille, » dit-elle. « Nous t'avons pardonné tes plaisanteries tout à l'heure, n'est-ce pas, mon fils ?» Et elle pince l'empereur en cachette. « Aïe !»« Oui, maman, je veux dire oui, messieurs, » bafouille l'empereur. « Alors rends-lui son pinceau, puisque tu en es incapable de t'en servir, » chuchote l'impératrice. Elle prend le pinceau, le met dans les mains de Ma Liang et dit très fort. « En acceptant ce pinceau de notre main impériale, » le pâtre Ma Liang s'engage à l'utiliser uniquement selon les ordres de l'empereur. Alors les trompettes résonnent au-dessus des toits de la ville et les gardes crient « Vive notre très généreux empereur !» Mais Ma Liang n'entend que son cœur qui pleure et il ne peint plus. La tempête. Les jours passent, durs comme les ongles de la princesse. Dans le palais, c'est le branle-bas des veilles de mariage. Une foule d'esclaves travaille jour et nuit pour finir les fleurs artificielles qui décorent le pavillon des mariés. La princesse, elle, boude. Dire que moi, fille et petite fille d'empereur, je dois épouser un petit peintre qui ne peint même pas, se plaint-elle à son frère. Celui-ci fait appeler Ma Liang. Qu'entends-je ? Tu ne peins plus à ce qu'il paraît ? Qu'est-ce que c'est que cette paresse ? J'avais promis de n'utiliser mon pinceau que selon vos désirs, et vous ne m'avez rien demandé, dit Ma Liang. Bien, très très obéissant. Eh bien, maintenant je désire la mer, dit enfin l'empereur. En deux longs coups de pinceau, la mer se trouve devant eux, calme, bleu, déroulant ses flots à l'infini. Jamais l'empereur n'avait vu mer si belle. Pas mal, mais il manque des poissons. Quelques petites touches de poissons, pinceau, et la mer se remplit de poissons de toutes les couleurs. Tout en frétillant de la queue en faisant des cabrioles, ils s'éloignent du rivage. « Fais-les revenir pour que je m'amuse à les regarder, » ordonne l'empereur. Une fois échappé du pinceau, l'œuvre est libre. Je ne peux ni retenir ni refaire revenir ces poissons, dit Maliang. « Alors vite, fais-moi un bateau, je veux les poursuivre. » Maliang peint un voilier magnifique. L'empereur y monte avec toute sa cour pour en admirer de près les mâts sculptés et les voiles de soie. Et puis il réclame. « À quoi bon un bateau qui ne navigue pas? Fais-nous du vent !» Maliang peint une ancre relevée et le souffle d'une brise, et le bateau s'éloigne doucement sur les eaux. L'empereur crie. « Tu deviens paresseux? Comment veux-tu qu'une si petite brise nous fasse avancer ?» Maliang ajoute quelques coups de pinceau sur le ciel. La brise devient du vent, gonfle les voiles et pousse le bateau vers le large. Il peint des vagues et la mer s'agite. Le navire file toujours plus vite et commence à tanguer. « Ça va, ça suffit comme vent !» crie l'empereur. Maliang ne l'écoute pas. Son pinceau court sur la mer et sur le ciel. Le vent devient tempête et le tonnerre couvre la voix de l'empereur qui hurle affolé. « Il y a trop de vent ! Arrête ! Arrête !» Mais sa voix est noyée par les vagues qui déferlent sur le bateau. Et Maliang continue à peindre comme un fou. Le pinceau vole sur les eaux et dans les airs. D'énormes nuages noirs et des lames géantes s'abattent sur le pont, fracassent les mâts, déchirent les voiles, s'engouffrent par les fentes des plantes disjointes. Et Maliang peint toujours à grands coups de pinceau rageur. Le ciel se zèbre d'éclairs et la mer s'obscurcit d'un flot d'encre noire qui finit par engloutir le voilier et tous ceux qui s'y trouvent. Devant Maliang, il n'y a plus qu'une feuille de papier couverte d'une énorme tache blanche de Chine. Alors, il prend son pinceau, traverse les salles vides du palais, sort par le grand portail qu'aucun soldat ne garde plus et disparaît dans la nuit. Personne ne sait ce qu'il est devenu. Certains disent qu'il y retourna dans son village et ne peignit jamais plus. Mais je ne les crois pas. Car d'autres disent qu'il s'enfuit de par le monde, peignant les rêves et les espoirs des gens.